Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui d'une grande loi spirituelle qui est encore beaucoup plus durable que les lois physiques qui régissent notre monde matériel. Une loi spirituelle absolument habituelle dans l'action de Dieu. Et cette loi, eh bien voilà, on va lire le passage, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1, au verset 27. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Nous relisons ce texte. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez entendu parler du serment de Koufra ? Serment de Koufra, je voudrais vous expliquer de quoi il s'agit. C'était au moment de la débâcle de l'armée française en 1940. Alors vous avez eu un colonel, qui était colonel à ce moment-là, et qui, lui, n'a pas accepté la défaite. Et il est passé en ce qu'on appelait en AOF à l'époque, c'est-à-dire en Afrique occidentale française. Donc ça s'appelait comme ça à l'époque, et il a rassemblé tous les moyens dont il pouvait disposer, quelques camions disparates, dépareillés, quelques centaines d'hommes, un vieux canon de 75, et il est parti du Tchad avec sa maigre colonne, il est remonté vers l'oasis de Koufra, dans le désert donc, et là il y avait un fort qui était tenu par 2000 Italiens bien armés. Les Italiens étaient alliés aux Allemands, c'était les forces de l'Axe à ce moment-là. Donc il assiège le fort. Il change son canon de place en cachette pour faire croire qu'il en a plusieurs, hein, pour tirer sur le fort, alors que les Italiens, eux, avaient plusieurs canons à l'intérieur du fort. Et au bout de quelques semaines, après ce bluff, je dirais, eh bien, la garnison italienne a capitulé. Et dans la cour du fort, après cette victoire, cette première victoire, lors d'une solennelle montée des couleurs, le colonel, qui va devenir plus tard général, général Leclerc, donc, fait un serment, celui qui continuait le combat, jusqu'à ce que ces mêmes couleurs flottent sur la cathédrale de Strasbourg. C'est le serment qu'il a fait. Alors ça pouvait paraître bien faible, bien dérisoire à ce moment-là, quelques centaines de soldats mal équipés face aux divisions considérable et bien équipé des forces de l'Axe qu'il y avait donc spécialement donc en Afrique à ce moment-là, Afrique du Nord. Mais la petite armée du général Leclerc va aller de l'avant, elle va grossir de plus en plus, elle va remporter des victoires, plusieurs, l'une après l'autre, parfois chèrement payées, parce que la guerre c'est jamais amusant, hein, la guerre c'est toujours triste. Mais quand même, bon, bien après, il n'y a pas eu que les Français hein, dans cette affaire, il y a eu les Anglais, les Américains, etc. Donc, malgré tout, jusqu'à ce que le dernier Allemand quitte l'Afrique du Nord. Et à ce moment-là, les Américains ont proposé d'équiper l'armée de Leclerc avec du matériel moderne, et ça a été la naissance de la 2e division blindée, laquelle donc a été transportée en Grande-Bretagne et a participé au débarquement de Normandie en juin 1944. Et après bien des péripéties, ça a été la marche sur Paris, ça a été la conquête de la ville par la 2e division blindée, la reddition du général von Scholtitz, qui était le commandant de la place, et puis ça a été la marche vers l'est de la France, la campagne d'hiver 44, donc dans le nord des Vosges, et puis la percée dans la région de Saverne, donc, qui va faire dévaler les blindés de la 2e DB vers Strasbourg et qui va être conquise en peu de temps et par surprise. Et le drapeau donc, va monter sur la cathédrale de Strasbourg et le serment de Koufra aura été ainsi tenu. Un petit et faible départ, dont certainement l'ennemi se serait moqué s'il avait pris connaissance, mais à force de lutte, de courage, de combat, de réussite, donc ça s'est réalisé. Vous savez, il n'en est pas toujours ainsi en ce qui concerne les serments et les vœux humains. Bien souvent, vous savez, les imprévus de toutes sortes qui empêchent la réalisation de ce que les hommes ont pu projeter. Mais en ce qui concerne le Seigneur, malgré tout, il n'en est pas de même. Et dans son œuvre ici-bas, le Seigneur fait toujours commencer les choses les plus importantes par des petits commencements. Il faut toujours voir ça. De façon générale, pour Dieu, les grandes choses ont un petit commencement sur cette terre. Voyez la libération du peuple d'Israël de l'Égypte. Voyez une grande chose. C'est une grande entreprise. Vous avez là des millions de personnes qu'il faut tirer de ce pays contre la volonté du Pharaon. Voyez les grands miracles qu'il a fallu, les 10 plaies d'Égypte qui ont été nécessaires pour que le Pharaon laisse à contre-cœur partir les gens. Et puis vous avez eu aussi cette puissance, je dirais, persévérante de la part du Seigneur, cette providence persévérante parce qu'il a fallu nourrir et abreuver tous ces gens au désert pendant des dizaines d'années. Mais comment est-ce que toute cette grande œuvre a commencé? Eh bien, elle a commencé par un petit berceau qui avait été fabriqué de manière artisanale par la maman, un petit berceau imperméable là qui flottait dans les roseaux près de la berge, sur la berge du Nil, au bord de la berge du Nil, donc du fleuve du Nil. Et là, il y avait un petit enfant faible, vulnérable, qui avait reçu le nom de Moïse, qui était normalement condamné à mourir. Ça a commencé comme ça. Voyez aussi l'apparition du grand prophète Samuel, parce que je dirais quelque part, c'est encore plus évident. Samuel va être un grand prophète, c'est vrai, et il sera vraiment le moyen de Dieu pour préserver le peuple pendant une période très délicate et très sensible de son histoire. Mais comment Samuel est-il apparu? Bien, il est né parce qu'un jour, une femme stérile a ouvert son cœur devant Dieu, qu'elle a répandu son cœur devant Dieu et qu'elle a prié pour consacrer au Seigneur l'enfant qu'il plairait à Dieu de lui faire avoir. Et c'est comme ça qu'est né un enfant qui, selon toute logique, n'aurait jamais dû apparaître, qui en plus a lui aussi grandi dans des circonstances qui étaient périlleuses, difficiles, mais qui a été gardé, qui a été préservé par Dieu pour accomplir de grandes choses parce qu'il a eu aussi la foi. Amen. Et puis, si je vois encore la naissance de Jean-Baptiste, parce que là aussi, et de lui, le Seigneur Jésus va dire qu'il n'y en a pas eu de plus grand avant lui qui soit né de femme. Vous voyez l'importance de ce qu'il avait à réaliser, l'importance de sa position et de la disposition de son cœur. Et ça, c'est aussi donc une grande œuvre qui va se réaliser pour préparer la venue du Seigneur Jésus. Mais là encore, voyez la simplicité, la faiblesse qui entoure sa naissance. Là encore, la mère Élisabeth est stérile, et c'est un miracle qui va s'accomplir en faveur d'un enfant qui apprendra à vivre dans le désert et dans le retirement jusqu'à ce que Dieu l'appelle pour accomplir sa grande œuvre. Amen. Et puis Gédéon maintenant, l'appel de Gédéon. Là, nous revenons en arrière, des siècles en arrière, donc à l'époque des juges, une époque troublée en même temps. Et puis Dieu l'appelle pour devenir le libérateur du peuple d'Israël. Mais Gédéon est loin d'en être convaincu. Gédéon, c'est quelqu'un qui se sait, c'est quelqu'un qui se voit petit. Et comme il le dit à Dieu, il le dit au Seigneur, à l'ange de l'Éternel, « Mais je suis le plus petit de la maison de mon père. » Et puis, la maison de mon père, c'est la plus petite de la tribu. Et ma tribu, c'est la moindre de tout le peuple de Dieu. Mais c'est justement à cause de ça. Une des grandes raisons qui font que Dieu l'a choisi, lui, Gédéon. Parce que quand quelqu'un sait qu'il est petit et qu'il est incapable, mais qu'en même temps il se confie en Dieu, voilà le moyen pour que Dieu puisse faire de grandes choses. Vous avez des gens, ils se savent petits, ils en font un complexe. Alors ça, c'est dommage, parce que Dieu ne peut pas faire grand-chose tant qu'ils sont dans cet état d'esprit. Mais s'ils se savent petits et qu'ils se confient en Dieu, là Dieu peut faire quelque chose, alléluia. Et Dieu veut faire quelque chose. Mais considérez aussi l'appel de David. David, là encore, dans sa famille, dans son entourage, on le considérait comme un doux rêveur. On ne voyait pas beaucoup de capacité chez lui. Juste, va garder ces quelques brebis dans le désert, là. C'est tout ce que tu es capable de faire. C'est ce qu'on pensait, c'est ce que sa famille même pensait. Et dans son entourage, personne n'imaginait, de près ou de loin, qu'il puisse non seulement devenir roi d'Israël, mais le meilleur roi d'Israël, meilleur roi qu'Israël ait eu. Mais parce qu'il était méprisé, parce qu'il était méconnu et se confiait cependant au Seigneur, Dieu va pouvoir faire de lui un homme selon son cœur. Alléluia. Hein, et Dieu l'a choisi de préférence à beaucoup d'autres qui avaient beaucoup plus de prestance et beaucoup plus d'apparence aux yeux des hommes. Considérez aussi le miracle de la guérison de Naaman le Syrien, dont on a parlé encore il n'y a pas longtemps, mais c'était quelque chose là aussi de spécialement parlant sur ce point, parce que Naaman, lui, c'était un grand homme. Hein. C'était quelqu'un, un chef d'état-major de l'armée du roi de Syrie, qui en plus avait eu du succès, il avait du prestige, hein, il était très considéré. Mais cet homme était atteint d'une lèpre incurable. Voilà. Et Dieu va faire un miracle de guérison pour cet homme. Mais comment va-t-il le faire? Pourquoi va-t-il le faire? Est-ce qu'il va le faire parce qu'il est un grand de ce monde? Ben certainement pas, vous savez. Dieu n'a rien à faire des distinctions que les hommes établissent dans ce genre de situation. Au contraire, si Naaman sera guéri, c'est parce qu'il aura appris à s'abaisser, c'est parce qu'il aura appris à s'humilier pour tenir compte des petites choses dont Dieu tient compte. Hein ? C'est-à-dire quoi ? Eh bien, le témoignage de la petite servante qui se sera adressée à sa femme et qui lui aura dit « Oh, mon maître, eh bien, allez voir en Israël, eh bien, Dieu, l'Éternel, serait tout-puissant pour le guérir de sa lèpre. » Donc, c'était un petit témoignage. Il a tenu compte. Ensuite, il a tenu compte de l'ordre, il a eu du mal un petit peu au départ, mais il a tenu compte quand même de l'ordre qui lui a été transmis par le moyen du serviteur du prophète, et il allait se tremper cette fois dans le Jourdain. Et cet homme va être béni, guéri, mais plus que cela encore, il va être changé dans son cœur. Une grande œuvre qui va s'accomplir par le moyen de choses apparemment petites et insignifiantes. Amen. Et puis, considérez aussi le miracle de la multiplication des pains. Là encore, vous voyez quelque chose, hein, un miracle qui nous montre d'une manière très claire que le Seigneur peut faire de très grandes choses à partir de très petites, même qu'il choisit de faire comme ça. Hein. Donc voici ces milliers de personnes qui sont rassemblées, affamées, en plein désert, n'ayant rien mangé depuis 3 jours, parce qu'ils avaient voulu se nourrir de la parole de Jésus. Pendant ces 3 jours, ils étaient venus écouter la parole de Dieu dans le désert. C'est beau ça, hein. Et Jésus demande qu'on apporte des vivres, et les disciples y vont, ils reviennent tous bredouilles, sauf un qui dit, ben voilà, il y a un gamin là, il a 5 pains et 2 poissons, et puis il ajoute, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Et oui, c'est vrai, qu'est-ce que cela pour tant de gens? Pour lui, ça paraît trop petit, trop négligeable pour qu'on en tienne compte et qu'on en fasse quelque chose, mais Jésus, lui, va agir justement à partir de cela. Et ces milliers de personnes seront rassasiées et on remportera 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Et combien souvent on voit que le Seigneur Jésus a choisi les petites choses pour faire de grands miracles. Et on pourrait prendre encore beaucoup d'autres exemples. Mais maintenant, il nous faut arriver au principal, c'est-à-dire à la personne même de Jésus, dans laquelle cette loi spirituelle a été aussi pleinement accomplie, et nous ne ferons certainement pas trop d'y consacrer un chapitre tout entier, parce que c'est volontairement que Jésus n'a pas été un de ces sages selon la chair, un de ces puissants ou un de ces nobles, c'est volontairement qu'il a paru, aux yeux de ceux qui regardaient superficiellement en tout cas, qu'il a paru comme fou pour confondre les sages, qu'il s'est montré comme faible pour confondre les forts, qu'il s'est montré comme vil, méprisable et sans valeur, afin de confondre ceux qui sont, ou ceux plutôt, qui se croient quelque chose. Hein. Et il l'a fait volontairement, afin de rabaisser l'orgueil humain et de pouvoir montrer dans sa vie la gloire de Dieu. Amen. Alors voici donc notre deuxième chapitre. En Jésus, de grandes choses, les plus grandes choses se sont accomplies dans le plus grand abaissement. Et vous avez 3 choses spécialement. Déjà, sa naissance. La naissance de Jésus, c'est une grande chose. C'est une chose extraordinaire. Voyez pourtant comme elle s'accomplit dans la simplicité la plus extrême, voilà, au travers d'une pauvre paysanne qui s'appelle Marie, dans l'abaissement, dans une étable, là, couchée dans une crèche, dans le mépris, hein, donc, parce que qui est-ce qui va croire qu'il a été conçu du Saint-Esprit? Vous savez, quand les gens ont entendu ça, j'imagine qu'ils ont ricané, hein, c'est comme ça que les choses se sont passées, et se passent encore d'ailleurs, hein. dans la persécution aussi, parce que, bah oui, Hérode voudra le faire tuer, et puis, hélas, il y aura beaucoup de petits-enfants qui mourront dans la région à cause de la cruauté et de l'esprit terrible qu'il y avait en Hérode. Et puis, dans le rejet aussi, hein, donc, ses parents ont été obligés de s'exiler avec lui en Égypte. Toute la naissance de Jésus, pourtant si importante, s'est faite dans l'abaissement, s'est faite dans l'humilité, s'est faite de la manière la plus méconnue qui soit. En juillet 1969, au cours de la mission Apollo 11, des hommes ont mis pour la première fois le pied sur la Lune et y ont fait quelques pas. À leur retour, ils ont été célébrés en héros, parades à New York, et puis des conférences, des interviews, des défilés, des réceptions qui se sont enchaînées dans différents pays. Tel a été l'honneur rendu à ces hommes parce qu'ils ont marché sur la Lune. Mais quelques années plus tard, l'astronaute James Irwin a déclaré la chose suivante: « La plus grande chose dans l'humanité n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la Terre en la personne de Jésus-Christ. » Alléluia, amen. Et ça, c'est vrai, c'est la plus grande chose. Et pourtant, vous avez vu comment cette chose a été faite dans l'abaissement, comment, ça nous est expliqué dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Matthieu. Donc, dans une étable, c'est là que Marie a donné naissance au Fils de Dieu, Jésus-Christ, son berceau, une mangeoire destinée aux animaux. Quelques bergers viennent voir l'enfant prévenu par un ange de Dieu. Je vous annonce un grand sujet de joie. Aujourd'hui, vous avez un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Pour les anges, c'est un grand sujet de joie. Eux, ils savent que c'est une grande chose. Mais sur la terre, c'est une petite chose. Et puis, les mages d'Orient viennent encore pour lui rendre hommage, mais en secret. On le voit dans Matthieu chapitre 2. Et c'est vrai que ça a été une de ces grandes choses qui sont accomplies dans l'abaissement. Ensuite, la deuxième grande chose qui s'est accomplie dans l'abaissement pour Jésus, c'est quoi? C'est son ministère terrestre. Son ministère terrestre. Quand il commence à prêcher la parole de Dieu, à prier pour les malades, à opérer des miracles et des prodiges, il est marqué: les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia! Et ça, c'est donc la description de son service. Et on aurait dû, avec ça, le considérer tout de suite comme un des plus grands, voire le plus grand bienfaiteur de l'humanité, n'est-il pas vrai? On aurait dû faire cela. Or, qu'en est-il? On s'aperçoit qu'il est incompris de la plus forte majorité. Et ceux qui s'engagent pour devenir ses disciples sont en fait peu nombreux. Les guérisons miraculeuses sont mises en question par les autorités, en particulier les autorités religieuses du pays. Sa parole est critiquée et rejetée, et pourtant, combien cette parole est extraordinaire! Combien les paroles de Jésus rapportées dans les évangiles sont quelque chose de merveilleux pour ceux qui veulent bien les lire et y attacher un petit peu d'attention. Lui-même est l'objet de toutes sortes de rejets, de calomnies, de mensonges. Il se trouve face à une volonté délibérée de rejet de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Et cependant, c'est dans ce climat même de minimisation de sa prédication et de son travail que l'œuvre de Dieu va s'accomplir pour ceux qui se confient en lui. Et vous savez, aujourd'hui, c'est exactement la même chose, Il ne faut pas croire que ça a changé, Là où Dieu agit, là où il bénit, c'est au milieu de ceux qui sont méprisés, calomniés, haïs, rejetés parce qu'ils veulent obéir au Seigneur et à sa parole. Amen. Pardon. Mais c'est encore notre troisième point maintenant. C'est encore plus évident en ce qui concerne la mort de Jésus. Ça, c'est le troisième grand point. La mort de Jésus, c'est la plus honteuse, c'est la plus misérable, c'est la plus ignominieuse, c'est la plus humiliante, c'est la plus terrible qui soit. Et pourtant, c'est justement au travers de cette œuvre que la plus grande œuvre du Seigneur va pouvoir s'accomplir et se réaliser. Et certainement, il faut que nous puissions considérer les choses un petit peu plus en détail. Les dernières paroles d'un homme ou d'une femme au chevet de la mort ont souvent une profondeur particulière. Donc Napoléon Bonaparte, notre empereur français, lorsqu'il était au seuil de la mort, a dit la chose suivante: « Je meurs avant mon temps, et mon corps va retourner à la terre. Tel est le sort de celui qu'on a appelé le grand Napoléon. » Ah oui, il réalise enfin. Ce qu'il aurait dû peut-être dû réaliser bien avant. Hein. Enfin bon, voilà. C'est tout. Voltaire, l'écrivain français moqueur contre les choses de Dieu, hein, incrédule, profane. Lorsqu'il est sur son lit de mort, il s'adresse à son médecin de la façon suivante. Il lui dit « Je suis abandonné par Dieu et par les hommes. Je vous donne la moitié de ma fortune si vous prolongez ma vie de 6 mois. » Eh oui, ça c'est Voltaire. Hein. On ne nous l'apprend pas à l'école, ça. Hein. Mais c'est pourtant ça la réalité, hein, de ce qui s'est passé pour lui. Après, vous avez Thomas Hobbes, qui est moins connu en France, mais qui est bien connu dans les milieux anglo-saxons, parce que c'est un homme qui a détourné de la foi de grands hommes en Angleterre. Et voilà ce qu'il s'est décrié sur le point de mourir. « Si le monde entier m'appartenait, je le donnerais pour vivre une journée de plus. Je sens que je suis sur le point de faire un grand saut dans les ténèbres. » Eh oui ! Vous savez, c'est pas tout de faire le malin pendant qu'on est vivant. Hein ? Quand on se retrouve face à la réalité, au bout du compte, eh ben là, c'est là qu'il faut considérer les choses. Et les dernières paroles de Jésus, parce que c'est surtout à ça que nous voulons nous attacher, hein, les dernières paroles de Jésus ont aussi une profondeur particulière. Jésus, c'était le Dieu de l'univers, qui a été fait homme, et c'est donc dans le contexte de cette terrible agonie sur la croix qu'il a prononcé ses dernières paroles. Nous savons que Jésus est resté pendant 6 heures sur la croix, pendu entre le ciel et la terre, et ces 6 heures ont certainement dû lui paraître comme une éternité. Vous savez, la crucifixion, c'est quelque chose d'abominable. C'est quelque chose, c'est une mort affreuse. Hein. On meurt en fait par étouffement. C'est-à-dire que comme on est accroché comme cela, et puis qu'on a les pieds et les mains qui sont percés de clous, eh bien chaque fois qu'on veut prendre sa respiration, on essaye de tirer sur ses mains et de pousser sur ses pieds pour reprendre un petit peu d'air. Voyez-vous, à chaque fois, imaginez la souffrance terrible que ça produit. Pour reprendre un petit peu d'air, et puis finalement, au bout du compte, on meurt d'étouffement. Donc, déjà dans ces 6 heures, où Jésus a souffert terriblement, il y a des crucifiés qui mouraient, qui souffraient plus longtemps que ça, mais Jésus avait déjà tellement souffert avant, hein, il a déjà subi tellement de choses terribles avant, qu'il avait affaibli, sans parler bien sûr des railleries, des moqueries dont il a été l'objet, sans compter les terribles attaques diaboliques et démoniaques dont il était aussi spécialement l'objet à ce moment-là. Et c'est dans ce contexte de souffrance où Jésus luttait pour chaque inspiration qu'il a prononcé ses dernières paroles. C'est pour ça qu'il faut qu'on réalise hein, l'environnement dans lequel ces paroles étaient brèves, elles étaient pénibles à prononcer, elles provenaient du plus profond de son être, et c'est elles qu'il nous faut aussi examiner un petit peu maintenant. La première parole, celle se trouve dans Luc chapitre 23, verset 34, il a marqué, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Vous savez, on venait de lui enfoncer les clous dans les mains et les pieds. Lorsqu'on avait érigé la croix, on l'avait laissé tomber d'une secousse dans le trou qui avait été prévu pour ça. Donc vous imaginez les souffrances. Et à ce moment-là, eh bien, il prononce ces paroles. Quelle différence avec les deux autres condamnés, donc, qui étaient des bandits, des criminels, qui en proféraient, eux, des injures, des menaces, dans leur rage, dans leur révolte d'être crucifiés. C'est l'évêque Ryle, donc un évêque anglican chrétien, profondément chrétien, qui a dit la chose suivante à ce sujet. « Alors que le sang du grand sacrifice commençait à couler, le plus grand des souverains sacrificateurs commençait à intercéder. » Eh oui, c'est vrai. « Alors que le sang du grand sacrifice commençait à couler, le plus grand des souverains sacrificateurs commençait à intercéder. » Eh oui, c'est vrai. Vous savez, Jésus est celui qui a payé pour nous. Il faut quand même qu'on réalise ce que ça veut dire. Hein. Il y a quelques années, il y a un serviteur de Dieu qui prêchait la parole de Dieu dans une ville du Canada. Et voilà qu'un homme, sous l'emprise de l'alcool, est entré dans la salle et il s'est mis à invectiver les assistants. On a essayé de le faire sortir. Il est devenu violent. Il a injurié le prédicateur et la police a dû intervenir. Et un mois plus tard, cet homme a été traduit en justice. Et comme il ne pouvait pas payer l'amende qui était prévue par la loi, le juge l'a condamné à une peine de quelques semaines de prison. Et puis le prédicateur était là, il assistait à l'audience, et à la fin, il allait voir discrètement le juge et lui a demandé « Est-ce que vous me donnez l'autorisation de payer l'amende ?» Alors, le juge a hésité un moment, il a réfléchi, puis il a accepté l'offre, et il a dit à l'accusé « Vous êtes libre, quelqu'un a payé l'amende pour vous. » Alors, l'autre a dit, quelqu'un a payé pour moi, mais qui voudrait payer pour moi ? L'homme que vous avez insulté, lui dit le juge. Alors, l'autre a été profondément ému, et larmes dans les yeux, il a tendu la main au prédicateur, il l'a remercié. Vous savez, cette histoire, c'est une leçon pour nous, parce que ce chrétien-là, il n'a pas détourné le cours normal de la justice. Hein. Le jugement devait être prononcé sur le coupable, mais par amour chrétien, il a payé l'amende à sa place. Et ça, c'est une belle illustration de la façon dont la justice et l'amour de Dieu se déploient en même temps. La justice, elle exige la punition du péché, et Dieu ne peut pas renoncer à sa justice. Mais par amour pour nous, il a envoyé son Fils sur la terre, et Jésus sur la croix a subi la punition à la place des pécheurs, à la place de tous ceux qui se tournent vers Dieu et qui acceptent son pardon par la foi. Amen. Amen. Voilà. Et c'est vrai que le Seigneur est celui qui a accompli cette œuvre surnaturelle, cette œuvre impossible aux hommes. Et donc, il a pu le faire à cause de sa communion avec lui. Quand Jésus a prié et qu'il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », pour qui a-t-il prié ainsi ? Il a prié déjà pour les chefs religieux qui avaient cherché depuis le début, par jalousie, à le faire mourir. Et puis il a prié pour ses soldats romains aussi, qu'il avait livrés à la mort, après avoir reconnu son innocence. Hein. Et il a prié pour les gens du peuple, qui avaient demandé à Pilate de libérer Barabbas, plutôt que de libérer lui, Jésus, hein, le criminel à la place de l'innocent. Et puis il a prié pour nous, hein, pour nous aussi, pour nos péchés, parce que nos péchés aussi l'ont directement envoyé à la croix. Il est mort, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Amen. Hein, voilà. Et Jésus a-t-il été exaucé ? Eh bien, Jésus a été exaucé sur toute la ligne. Nous le voyons. Parce que lorsque vous le regardez un peu plus loin dans le livre des Actes des Apôtres, après la Pentecôte, au chapitre 6, au verset 7, il nous est écrit « Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi ». Donc, ça veut dire que parmi tous ces ennemis qu'il y avait eu de Jésus, il y en a beaucoup qui se sont convertis. Alléluia. Hein ? Et puis, les soldats romains, nous l'avons vu aussi, les premiers ont reconnu qu'il était vraiment Jésus, donc il est vraiment juste. Hein, Matthieu 27, verset 54, « Assurément, cet homme était juste », ont-ils dit. L'exaucement s'est manifesté aussi au travers de la conversion de beaucoup de gens du peuple qui étaient désemparés, qui ont reconnu leur crime à la Pentecôte. Hein, l'apôtre Pierre ne leur a pas caché les choses, il ne leur a pas mâché les mots hein, dans son discours. Il leur a dit toute la vérité les concernant. Et puis nous voyons qu'ils sont convertis, alléluia, là aussi en grand nombre. C'est un exaucement de la prière. Et ceux qui sont venus au Seigneur jusqu'à aujourd'hui, tous les pécheurs qui sont convertis jusqu'à aujourd'hui, eh bien, sont une preuve aussi que Dieu a exaucé Jésus. Je vous donne juste quelques petits témoignages au travers des siècles pour montrer comment la prière de Jésus a été exaucée au travers des siècles. Voici la prière de Jean de Damas. C'est au 7e siècle. C'est bien, bien vieux, hein? Mais vous savez ce que cet homme a redressé comme témoignage, je peux y souscrire moi-même mot par mot, hein, et je vous lis cela. C'est toi, Seigneur, qui m'as formé dans le sein de ma mère. C'est toi qui m'as fait venir à la lumière comme un petit enfant, car les lois de notre nature obéissent perpétuellement à tes ordres. Tu nous as aimés, Seigneur, et tu as donné ton Fils à notre place pour notre rachat. Ce rachat, il l'a entrepris volontairement. Étant Dieu, il s'est fait homme. Il s'est soumis, se faisant obéissant à toi, Dieu son Père, jusqu'à mourir, et mourir sur une croix. Ainsi, ô Christ, mon Dieu, tu t'es abaissé pour me porter sur tes épaules, brebis égarée, et tu m'as placé dans un pâturage verdoyant. Tu m'as désaltéré aux sources de la vraie doctrine par l'intermédiaire de tes serviteurs dont tu étais toi-même le berger. Donne-moi de dire hardiment ta parole, que ton esprit me donne une langue parfaitement libre et me rende toujours attentif à ta présence. Sois mon berger, Seigneur, et sois avec moi le berger de tes brebis, pour que mon cœur ne me fasse dévier ni à droite ni à gauche. Que ton esprit me dirige sur le droit chemin, pour que mes actions s'accomplissent selon ta volonté, et cela jusqu'au bout. Cherchons à plaire à Dieu, frères aimés de Dieu. Vous êtes ses élus. Chez vous l'évangile s'est accompagné d'œuvres de puissance, vous attendez son Fils qui viendra des cieux, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Ça c'est Jean de Damas, plus près de nous, eh bien, voici l'écrivain russe Dostoïevski, dont vous avez peut-être entendu parler, vous avez peut-être lu quelques-uns de ses écrits, donc c'est au 19e siècle. Et il était condamné à être fusillé pour ses activités révolutionnaires, et finalement il a été déporté dans un camp en Sibérie. Alors ça, C'était pas joyeux, hein, comme situation. Donc, il est revenu du bagne avec le Nouveau Testament. Et il disait, pour moi tout est clair, personne n'est plus beau, plus profond, plus compréhensif, plus parfait que le Christ. Il ne peut pas exister quelqu'un de meilleur. Si on devait me prouver que Jésus-Christ est en dehors de la vérité, je préférerais rester avec lui que de rester avec la vérité. Bon, ben, il n'avait pas ce problème à avoir puisque Jésus est la vérité. Hein. Voilà, mais quand même, voyez ce que cet homme a vécu dans sa souffrance, hein, ce qu'il a vécu comme expérience avec Dieu. Et sur son lit de mort, Dostoïevski réclama ce Nouveau Testament qu'il avait tant lu en Sibérie. Il a montré ce petit livre usé à ses enfants en leur disant « Ne vous séparez jamais de ce livre et surtout ne doutez jamais de l'amour et du pardon de Jésus. » Alléluia. Un beau témoignage, c'est vrai, rendu à l'amour de Jésus, rendu à la parole de Dieu. Une autre situation, un habitant de l'île de Nias, au large de Sumatra, parle du changement apporté parmi eux par l'évangile de Jésus-Christ. Et voilà ce qu'il dit. Jusqu'à ce que l'évangile nous atteigne, nous étions comme des gens qui pataugent dans un marais. Nous nous enfoncions de plus en plus, prêts à périr, corps et âme, dépravés à force de vivre dans le vice, rongés par la peur continuelle des mauvais esprits et par la terreur de la mort. Mais alors, nous avons entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est mort et ressuscité pour nous. Il a ôté notre culpabilité et nous donne, ici et dès maintenant, la vie éternelle. Alléluia. Et puis une autre situation, un autre endroit, une autre culture. Un Camerounais de son côté se rappelle à quel point lui et ceux de sa tribu tremblaient à la tombée de la nuit à cause des mauvais esprits. Même en plein jour, ils ne se sentaient pas tranquilles. Mais la lumière éclatante de l'évangile a illuminé leurs ténèbres, leur a apporté la liberté. Quand ils ont reçu pour la première fois le Nouveau Testament dans leur propre langue, ils se sont écriés « Maintenant, nous allons être forts ». La parole de Dieu va nous fortifier. Alléluia. C'était l'œuvre du salut. Le témoignage, œuvre merveilleuse du Seigneur Jésus depuis qu'il a été crucifié et jusqu'à maintenant. Le Seigneur a répondu à sa prière. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'avance un peu plus vite quand même maintenant. La deuxième parole de Jésus sur la croix, c'est dans Luc 23, verset 43. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Merveilleuse parole adressée à celui qu'on appelle le brigand repentant, très juste. Repentant, parce que voilà la grande valeur de la repentance aux yeux du Seigneur. C'est parce que ce brigand s'est réellement repenti qu'il lui a été possible de discerner qui Jésus était en réalité sur la croix à côté de lui. Vous savez, ceux qui ne veulent pas se repentir, ceux qui ne veulent pas reconnaître leur tort, ceux qui ne veulent pas reconnaître leur péché, ceux qui ne veulent pas changer de vie, ceux qui ne veulent pas faire ce qui plaît à Dieu, ben ceux-là ne reconnaîtront jamais Jésus. Je veux dire, ils ne discerneront jamais qui il est en réalité. Mais lui, parce qu'il a eu ce cœur repentant, il a pu réaliser qui était Jésus. Et à ce moment-là, il a pu vraiment recevoir le pardon de Dieu et la vie de Dieu. Et ça a été glorieux pour lui. Je vous prends un autre exemple d'un autre auteur russe plus près de chez nous, qui s'appelait Solzhenitsyn, c'est le 20e siècle. Donc, lui aussi, il a connu les horreurs des camps de travail. Et il a écrit à propos de ces bourreaux, donc de ceux qui avaient là dans ces camps de travail les gardiens qui les traitaient extrêmement mal. Et voilà ce qu'il dit à propos de ces bourreaux. Cette horde de loups, comment est-elle apparue? N'a-t-elle pas les mêmes racines que nous? N'est-elle pas du même sang? Et donne lui-même la réponse, oui, nous sommes du même sang. Et chacun de nous devrait bien se demander, si ma vie avait tourné autrement, est-ce que je ne serais pas devenu moi aussi un de ces bourreaux? C'est une question terrible, si on veut bien y répondre honnêtement. Voilà donc un homme qui a connu la perversité du cœur humain. Il a vu de près ce cœur, hein, quand rien ne le retient, pour qu'il puisse réaliser toutes ses folies. Et il a été effrayé, toute la méchanceté qu'il y avait là. Et on pourrait s'attendre à ce que son jugement ne porte justement que sur cette horde de loups, hein, comme il l'appelle. On voit ici que l'écrivain trouve dans le cœur même des victimes, dans le cœur des persécutés, dans le cœur des suppliciés, et dans son propre cœur, la même nature, la même source de mal que dans celui des bourreaux. Et vous savez, reconnaître que le cœur de l'homme est foncièrement mauvais, ça c'est un point capital. Mais il ne faut pas en rester là après. Hein. Après, ben, le remède, ben, c'est cette repentance qui nous fait venir au Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait nous tourner vers le Seigneur, nous fait ouvrir notre cœur à Dieu pour qu'il donne l'œuvre de la nouvelle naissance, le cœur nouveau puisse s'opérer en nous. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Et c'est vrai que combien Jésus est touché par cette attitude de foi et de repentance. Encore un témoignage qui s'est produit il y a quelques années. C'était un groupe de guitaristes qui s'étaient réunis sur une place d'un village en Angleterre. Bah, ils n'étaient pas bien riches, hein. Vous savez, ils étaient un petit peu de mettre un peu de beurre dans les épinards, comme on dit, en chantant. Il y avait des chansons rythmées. Donc, et puis ils ont attiré l'attention d'un certain nombre d'auditeurs. Et après la réunion, Peter, donc, qui était un des musiciens, a fait la quête. Il a fait la quête auprès de l'auditoire. Il est aussi allé frapper à la fenêtre d'une maison voisine. Et là, on lui a répondu la chose suivante. « Jeune homme, vous avez une belle voix. Voici un billet pour vous si vous lisez au public l'histoire du fils prodigue dans le Nouveau Testament. » Alors Peter, en souriant, il s'est dit « ça sera de l'argent vite gagné, ça, hein ?» Donc, et puis il a pris le Nouveau Testament qu'on lui donnait à la page où c'était ouvert, puis il a dit « Mesdames et messieurs, j'ai un texte à vous lire de la part du voisin. » Donc il a, avec le souci d'accrocher son public, pour bien se faire comprendre, il a commencé « Un homme avait deux fils. » Le plus jeune dit à son père « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et il leur partagea son bien. Et là, le lecteur s'est interrompu avant de continuer avec un petit peu moins d'assurance. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit tout et partit pour un pays éloigné. Là, il dissipa ce qu'il avait en vivant dans la débauche. Et puis là, il s'aperçut que ce récit collait tout à fait avec sa propre histoire. Voilà. Et plus il avançait, et plus il était ému. Hein. Et puis, bouleversé, il a lu le résumé de sa propre vie, jusqu'à ses paroles, où il est marqué « Et moi ici, je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père. » Voilà. Et puis donc, il venait de lire le récit du fils rebelle dans le Nouveau Testament qu'on lui avait donné. Et puis, il n'arrivait plus à se défaire de cette histoire-là. Hein. Ça lui remettait en mémoire des souvenirs qu'il avait essayé d'effacer. L'amour de ses parents, qui s'était montré avec tant d'attention. Mais il s'est dit, mais quelle mouche m'a piqué pour que je quitte la maison ? Ah, bien sûr, il n'en faisait qu'à sa tête. Donc, ça ne leur plaisait pas. Mais ça pouvait même les choquer. Et puis il se dit, mais est-ce que je me serais trompé pour moi qui aujourd'hui, je suis avec quelques copains pour récolter quelques pièces, pour arriver à joindre les deux bouts, hein, voilà. Et il a décidé d'aller voir le chrétien qui lui avait donné ce petit livre, et la conversation s'est engagée rapidement. Et puis il a dit, vous savez, l'histoire de ce fils rebelle, eh bien c'est la mienne, hein. J'en ai honte. Et le chrétien lui a répondu, mais sais-tu que cette histoire, c'est celle de tout homme, la mienne aussi, hein, si nous considérons le Père comme notre Créateur. Tu as eu la première partie de l'histoire, on va lire ensemble la deuxième maintenant. Hein. Et Peter a découvert alors que le chemin du retour lui était toujours ouvert, non seulement vers ses parents, mais aussi vers Dieu. Hein. Et la confession sincère de son passé, sa repentance sincère, ça l'a conduit à Jésus-Christ qui est devenu son sauveur et son libérateur. Il a fait la même expérience que le fils prodigue dans la parabole qu'il avait lue tout à l'heure, et Dieu l'a accueilli tel qu'il était, sans lui faire de reproches, et il a la certitude qu'il est pardonné et que Jésus a payé pour lui. Amen. Amen. Oui, c'est vrai, cette merveilleuse parole, parce que cet homme s'est repenti. Et j'avance, voici que Jésus dit à Marie, qui est là au pied de la croix, « Femme, voilà ton fils. » Et à Jean, qui est à côté, le seul disciple qui soit là, celui qui est fidèle, le disciple que Jésus aimait, « Voilà ta mère !» Voilà la parole que Jésus prononce. Vous savez, quand on souffre beaucoup, quand on est en train de souffrir beaucoup, on est vraiment absorbé dans notre souffrance. Alors souvent, ce n'est pas la peine de nous parler en même temps des souffrances des autres. Hein. Quand on a un mal de tête carabiné, quand on a une grosse rage de dents, quand on s'est tapé le petit doigt de pied dans la table du salon, hein, le petit doigt de pied, voilà. Alors la peine des autres, elle nous devient tout à fait étrangère, hein, au moins tout le temps qu'on a mal. Mais là, qu'est-ce qu'on voit ? Considérez la compassion et l'amour de Jésus pour les siens. Alors qu'il est en train de souffrir d'une manière atroce, voyez comme il comprend les souffrances de ceux qui sont là au pied de sa croix, comme il compatit à ses souffrances. Marie, sa mère, et il fait pour elle là dans la situation le meilleur arrangement possible en la confiant aux soins de son meilleur ami, de son disciple le plus fidèle qui est Jean, et combien le Seigneur est désireux d'agir pour ceux qui sont dans la souffrance, pour ceux qui sont dans la peine. Il veut encore faire des miracles pour eux. Il use de beaucoup de compassion. Béni soit son nom. Amen. Amen. Matthieu chapitre 27, verset 46 mériterait bien des prédications à lui tout seul, hein, cette parole, quatrième parole de Christ sur la croix. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Hein, donc ça, c'est la réalisation d'Ésaïe, chapitre 53, versets 3 à 6, que je relis. C'était annoncé prophétiquement par Ésaïe, donc 8 siècles avant la venue de Christ sur la terre. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. » C'est vrai, pour lui ça a été quelque chose de terrible, que le brisement de la communion qu'il avait avec le Père, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh oui, la chose la plus précieuse et de loin pour lui quand il était sur la terre, c'était la communion qu'il avait avec son Père. Et voilà qu'à ce moment-là, à cause du péché, eh bien, ça a été brisé. Et ça a été vraiment une souffrance terrible. Jean 19, verset 28, la cinquième parole. J'ai soif, j'ai soif. Ah oui, c'était une soif ardente, une soif dévorante que celle qu'il éprouvait lorsqu'il était sur cette croix. Et il a été ainsi, nous le voyons bien, parfaitement homme, par là aussi la manière dont il a partagé nos désagréments, toutes les souffrances que nous pouvons éprouver. Et en même temps, c'était aussi l'indice d'une autre soif. C'est la soif de voir des âmes se tourner vers lui en esprit, en vérité, pour l'aimer. Hein, pour l'aimer, oui, c'est vrai, en retour de l'amour qu'il leur a manifesté. Amen. Et puis, vous avez encore la sixième parole, c'est « Tout est accompli ». Ça, c'est dans Jean 19, verset 30. « Cri de victoire, remporté pour la plus grande victoire qui soit », c'est-à-dire la victoire sur le diable et les puissances mauvaises, la victoire sur le péché et sa domination. La victoire sur la mort et sur le séjour des morts. La victoire sur la maladie et la souffrance. La victoire sur le doute, sur l'incrédulité, sur les angoisses. Les portes du ciel désormais accessibles aux hommes. Alléluia. Il a accompli tout ce que le Père lui avait demandé de faire. Amen. Amen. Vous savez, sinon, on en croit l'historien juif Flavius Joseph, qui est naqué à peu près à la même période que Jésus, et qui a assisté aux événements majeurs de cette époque-là. L'année où a été crucifié Jésus, il n'y a pas eu moins de 256 600 agneaux qui ont été sacrifiés pour célébrer la Pâque juive. On le sait parce que lui, il appartenait à une lignée aristocratique de souverains sacrificateurs, donc il savait de quoi il parlait. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un côté, vous avez plus de 250 000 agneaux dont les sacrifices ne pouvaient pas effacer les péchés, et de l'autre côté, vous avez le sacrifice d'un seul agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, hein, et qui a été crucifié sur une croix romaine, et dont le sang, lui, allait nous purifier de tout péché. Amen. Vous savez, la tradition juive nous rappelle que les animaux qui allaient être sacrifiés, bien, on commençait à les préparer à partir de la troisième heure, c'est-à-dire 9h du matin. Et puis ensuite, les sacrifices proprement dits débutaient à la sixième heure, c'est-à-dire midi. Hein. Et puis, tout devait être terminé à la neuvième heure, c'est-à-dire troisième heure. C'est-à-dire 15 heures. Donc, et quand vous lisez le passage de Marc chapitre 15, il nous a expliqué que c'était la troisième heure quand ils l'ont crucifié. C'était au début, hein. Et puis que c'est allé, donc, jusqu'à la pardon, la neuvième heure, c'est-à-dire 6 heures plus tard, et 6 heures plus tard, il a expiré. Hein, c'est pas pour rien que ces détails nous sont donnés. C'est pour nous montrer combien le sacrifice de Jésus, là encore, correspondait aux besoins du sacrifice dans le temple, mais combien c'en était, l'entier et parfait accomplissement. Amen, amen. Tout est accompli. Enfin, la septième parole, « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Luc 23, verset 46. Ça, c'est vraiment l'expression de sa totale confiance en Dieu. C'est la répétition, les répétitions du psaume 31, où il s'expliquait du verset 1 à 6. Vous retrouvez exactement cette parole. Et puis, cette parole de Jésus, ça correspondait aussi à la prière que les mères juives enseignaient à leurs enfants de dire avant de s'endormir, lorsqu'ils se couchaient le soir. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et Jésus pouvait faire cela, pourquoi ? Parce qu'il savait que maintenant, il y avait pour lui des choses merveilleuses. Alléluia. Maintenant, il allait y avoir la résurrection des morts. Alléluia. Avec toute la manifestation de cette victoire. Maintenant, il allait y avoir la gloire. L'autorité suprême, la gloire à venir, eh bien voilà. Après la croix, c'était maintenant la couronne pour lui. Alléluia. Hein. Toutes sortes de victoires et de délivrances. Et ça nous parle aussi des choses merveilleuses que le Seigneur veut faire pour ceux qui se confient en lui. Vous savez, c'est important, c'est très important de considérer les petites choses au milieu desquelles nous nous trouvons aujourd'hui, qui peuvent paraître petites à nos yeux. Hein. L'endroit ici. C'est un endroit tout simple. Hein. Les circonstances dans lesquelles nous sommes, c'est un culte, après bien d'autres cultes. Hein. Donc, la position qui est la nôtre, hein, notre entourage, ce sont des gens tout simples qui sont là. Dieu merci. Hein. Donc, voilà. Mais croire que dans ces choses, le Seigneur est capable d'agir et surtout, ne pas... Deux choses à faire. La première, ne pas se faire d'illusions. Et puis la deuxième, ne pas rater l'occasion. Ne pas se faire d'illusions et ne pas rater l'occasion. J'explique. Lorsque vous allez à Londres, vous avez quelque chose qui s'appelle le musée de cire de Madame Tussaud. Hein. Donc voilà, on explique. Et là, vous avez des personnages qui sont repris, ces personnages célèbres du passé, ils ont été reconstitués par des artistes, ils sont faits en cire. Hein. Donc voilà. Et puis, ils sont vêtus à la mode de leur temps, ils sont placés dans un cadre d'époque. Alors voilà, il y a déjà ça qui est intéressant. Mais ce qui est surprenant, et ce qui peut être amusant, et puis ça c'est quelque chose qui amuse souvent les enfants, c'est que vous avez aussi, des statues de cire qui représentent des visiteurs qui sont assis là, en train d'observer les autres statues. Vous voyez ? Donc, vous avez les vitrines, et puis vous avez des sièges, et puis vous avez des statues de cire qui sont sur les sièges. Mais alors, ce qui se passe aussi, c'est que vous avez des plaisantins, des vraies personnes, hein, qui se mettent également là et qui ne bougent pas. Vous savez ? Ils ne bougent pas d'un millimètre. Ça fait que vous avez beaucoup de mal à faire la différence entre ceux qui sont assis en statue de cire et ceux qui sont assis vivants. Et des fois, il y en a, ils sont tellement doués, il faut vraiment s'approcher tout près pour sentir s'il y a une respiration ou quelque chose, parce qu'ils sont capables vraiment de rester sans bouger, hein, presque aller les toucher pour voir la différence. Hein. Ben vous savez, en attendant, eh bien, vous savez, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle du faux christianisme qui peut donner à quelqu'un toutes les apparences de la vie éternelle, mais sans avoir la vie. Et ça, c'est quelque chose. La ressemblance est parfaite, rien ne manque, dirait-on, mais le principal, la vie n'est pas là. Et ça existe. Hein. Vous savez, une religion, même une religion évangélique, hein, faut pas se faire d'illusions. Hein, ça ne peut pas communiquer la vie. Le baptême non plus n'est pas suffisant, hein, tant que même si le baptême est important. Et les faux chrétiens, vous savez, ils peuvent tromper du monde, ils peuvent même s'illusionner eux-mêmes, mais ils ne tromperont pas Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se pose chacun la question, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je suis un chrétien authentique qui a une vraie relation avec Jésus-Christ, une relation personnelle avec Jésus-Christ, ou bien est-ce que je suis un chrétien d'apparence ? Est-ce que je suis un chrétien factice ? Hein ? Donc voilà, quelle est ma réponse ? Quelle est la vôtre ? Est-ce que vous avez reçu la vie éternelle ? Combien il est important de ne pas se faire d'illusions ? Voyez, et puis de vraiment se tourner vers le Seigneur et de s'attacher à lui. Et après, il faut savoir saisir les occasions. Et là encore, une dernière petite anecdote. Hein, ça s'est passé il y a quelques années à Washington. Là, Là, non, pas Washington, c'est Washington. Donc, et là, vous avez un journal qui s'appelle Washington Post, qui a mené une expérience. Hein, on a demandé à Joshua Bell, qui est un des plus grands violonistes du monde, on lui a demandé de jouer dans une station de métro à Washington. Voilà. Et deux jours auparavant, il avait donné un concert dans le plus grand théâtre de Boston, et puis la salle était remplie, il fallait payer $100 la place, hein. Pour dire quand même que c'était un grand artiste. Voilà. Et donc, par une froide matinée de janvier, il a joué pendant plus de 40 minutes dans une station de métro à une heure de pointe, et seules 7 personnes se sont vraiment arrêtées pour l'écouter un moment. Il y a une vingtaine qui, sans s'arrêter, lui a donné quelques pièces, et sur plus de 1000 personnes, il y a une seule personne qui l'a reconnu. Et une des conclusions qu'on peut tirer de cette expérience-là, c'est quoi ? C'est que si on n'a pas un instant pour s'arrêter et pour reconnaître et pour écouter un des meilleurs musiciens du monde, combien d'autres choses on rate ? Combien d'autres choses on manque ? Hein ? Parce qu'on est trop pressé, parce qu'on fonce. Voyez-vous, les gens, ils ne se rendaient pas compte. Des milliers de personnes ne se rendaient pas compte qu'un des plus grands musiciens du monde était en train de jouer là. Ils n'avaient pas vu. Eh bien, vous savez... Chaque jour, vous avez des millions de personnes qui passent à côté de Dieu, à côté de ce que Dieu voudrait faire, à côté de l'amour de Dieu, à côté de la puissance de Dieu. Pourquoi ? Ben parce qu'ils sont distraits, parce qu'ils y croient pas, parce que voilà, ils foncent dans leur truc, ils ont leurs idées, ils n'ont pas le temps. Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et qui la garde, alléluia. Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et bienheureux ceux qui aujourd'hui se tournent profondément tout leur cœur vers le Seigneur. Et qui se disent maintenant, eh bien Seigneur, c'est vrai, le lieu dans lequel je suis n'est pas extraordinaire. C'est vrai que mon entourage n'est pas forcément extraordinaire non plus. Mais c'est pas grave, Seigneur. Je crois qu'avec les petites choses, avec les petites gens, eh bien Seigneur, tu es capable et désireux de faire de grandes choses. Alléluia. Et si vous confiez en le Seigneur, bien vous verrez qu'il se glorifiera et qu'il accomplira puissamment sa volonté et son œuvre d'amour envers vous. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur notre Dieu, et nous te bénissons, parce qu'aujourd'hui encore, tu es fidèle et bon, Seigneur. Aujourd'hui encore, ta grâce est là, puissante et agissante, Seigneur. Aujourd'hui encore, tu veux accomplir ton œuvre, Seigneur, en faveur des uns, en faveur des autres. Ô Seigneur Jésus, toi qui as été dans ce monde, toi qu'on a méprisé, dans sa naissance, toi qu'on a méprisé dans ton ministère, toi qu'on a encore plus méprisé dans ta mort sur la croix. On a dit que tout ça, c'était rien. On a dit que tout ça, ça valait rien, que tout ça, ça n'avait pas d'avenir. Et pourtant, c'était la chose la plus merveilleuse, la plus extraordinaire qui était en train de se produire. Et Seigneur, tu nous parles ainsi, parce que dans nos vies aussi, tu veux faire de même. Ceux qui ne méprisent pas le temps des faibles commencements, eh bien, ceux-là aussi verront que Dieu ne méprise pas le temps des faibles commencements. Merci Seigneur, béni sois-tu Jésus, alléluia. Alléluia Seigneur, et si parmi nous il en est, si parmi nous il y en est qui se sentent faibles, qui se sentent petits, qui se sentent indignes, qui se sentent incapables, mais qui maintenant voudraient venir au Seigneur et dire Seigneur, eh bien fais ton œuvre dans ma vie, Seigneur glorifie-toi, Seigneur agis, tu vois Seigneur ma situation, tu as mon besoin Seigneur, tu vois je veux être comme ce brigand repentant Seigneur qui était là et qui vraiment se repentit de tout son cœur et pour lequel tu as fait ces choses magnifiques, Seigneur, je veux venir à toi encore maintenant, et bien qu'ils se lèvent à leur place, levez-vous à votre place pour que nous puissions demander au Seigneur qu'il vous bénisse et qu'il agisse dans votre vie, alléluia, qu'il agisse dans votre situation, alléluia Seigneur, c'est toi le Tout-Puissant Jésus, tu connais chacune et chacun de ces bien-aimés Jésus, tu vois chacune de ces vies Jésus, alléluia, pour le monde elles peuvent paraître peut-être insignifiantes, mais pour toi, chacune de ces vies a un grand prix, a une grande valeur, et tu vois leur désir maintenant, tu vois qu'ils se lèvent Seigneur, et que ce désir, ça manifeste aussi le désir de d'élever leur cœur, d'élever leur âme vers toi Jésus, alléluia, et merci mon Seigneur, parce que c'est toi qui vas faire vraiment toute bonne chose en eux, tu vas produire en eux le vouloir et le faire, tu vas fortifier les bons désirs dans leurs âmes et dans leur vie Seigneur, alléluia, alléluia, tu vas les faire aspirer après les choses d'en haut, et tu vas puissamment les bénir en conséquence. Merci Seigneur. Seigneur. Alléluia. Oh, tu connais chacune de ces vies, Seigneur. Il y en a qui ont tout spécialement besoin d'une direction de ta part pour leur avenir. Et je te les remets pour cela, Seigneur. Il y en a qui ont besoin d'un soulagement. Il y en a qui ont besoin d'une délivrance, Seigneur. Et je te remercie parce que tu fais encore ton œuvre et tu vas la faire et tu vas la poursuivre, Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu qui laisse les choses en route. Tu es un Dieu qui va jusqu'au bout lorsque tu commences quelque chose. Merci, notre Dieu. Alléluia. Oh, Seigneur, ceux qui ont besoin de naître de nouveau, ceux qui ont besoin de se tourner vers toi, ceux qui ont besoin enfin de passer de la mort à la vie, ceux qui ont besoin de passer de la puissance de Satan à Dieu, eh bien, merci, Seigneur, parce que tu les visites encore par ton bon esprit pour cela. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Voulons pas être des croyants d'apparence. Voulons pas être des statues de cire, Seigneur. Nous voulons être de véritables croyants ayant la vie d'en haut en eux. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui manifestes ta puissance, toi qui manifestes ton amour, toi qui fais encore ton œuvre, Jésus, en faveur de chacune et de chacun. Nous te bénissons et te glorifions. Amen, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous avons plusieurs annonces. Donc, voilà. Donc, je vous rappelle, la réunion de prière, c'est mercredi à 20h15. Les questions-réponses bibliques, c'est vendredi à 19h15. La réunion d'évangélisation, c'est vendredi à 20h15. Distribution d'invitations dans des villages, c'est samedi. Donc, rendez-vous ici à 14h30 pour cela.